Océane gara l'Audi Q3 derrière un bosquet de frênes, prenant garde à ce qu'aucun noctambule perdu dans les champs, au cas improbable où il en existe un, ne puisse repérer sa voiture sans passer juste devant. Le plus difficile commençait. Charger le corps sur ses épaules. Prendre soin de ne laisser aucune trace, aucune empreinte, aucun cheveu, aucune goutte de sueur. Parcourir encore 150 mètres à l'ouest de la valeuse du curé. 10 ans plus tôt, en juin 2004, avant de donner rendez-vous à Alexandre Dacosta au Formule 1, Océane avait passé des journées à errer le long des falaises. Elle se recueillait, pensaient les passants ou les flics, inquiets. Sans doute s'imaginait-il qu'elle hésitait à sauter à son tour pour rejoindre sa jumelle. Ils auraient été trop contents. Comment aurait-il pu deviner que dans ce gruyère de craie, sur des kilomètres, elle recherchait le meilleur des puits naturels pour y faire disparaître les hommes encombrants. Un puits assez large pour y jeter la moitié de l'humanité. Elle l'avait trouvé, un peu à l'est de Bénouville, près du fond des Tigues, dans un aven perdu entre les ronces que seules les vaches connaissaient et où aucune ne s'était aventurée de mémoire de Normande. Océane bloqua sa respiration en ouvrant le coffre. Elle avait enroulé le corps de Jamal dans une couverture qu'elle brûlerait sitôt rentrée à Neuchâtel. C'était la troisième fois de sa vie qu'elle garait sa voiture ici. L'incroyable nouvelle était tombée le 27 août 2004. Une fille avait été retrouvée violée, étranglée avec une écharpe rouge Burberry en Basse-Normandie. Une certaine Myrtille Camus. Affolement général. Le tueur en série avait de nouveau frappé. Et il frapperait encore. Maman avait réuni l'association Fil Rouge le soir même, dans la salle de cantine de l'école de Grand Cambrésis que le maire avait libérée pour l'occasion. Elle souhaitait rencontrer tous les proches de cette Myrtille, ses parents, sa grand-mère, sa meilleure amie, son futur mari. Le temps pressait. Il fallait coincer le tueur avant qu'il ne file, ou ne recommence. Recouper le maximum d'indices. Le discours de maman était radical. On ne pouvait pas faire confiance à des fonctionnaires de police débordés, mal payés, et qui n'avaient qu'une hâte au fond, rentrer au plus vite chez eux pour oublier cette affaire sordide. En comptant Gilbert, le frère de maman, on atteignait 8 personnes autour de la table. 3 côté Avril, 5 côté Camus. Pendant toute la route de Neuchâtel à Grand-Camp, alors qu'oncle Gilbert conduisait en pestant contre les Parisiens haussiens qui encombraient l'A13 et que maman ne cessait de siffler entre ses dents, « Il a recommencé, on va coincer ce salaud, il a recommencé !» Océane avait ressassé sa conviction. Le meurtrier connaissait Myrtille Camus. Il était même l'un de ses proches, l'un des premiers que la police allait soupçonner. Sinon, pourquoi aurait-il maquillé son crime et détourné les soupçons vers un tueur recherché par toute la police normande, un homme violent puis étranglant ses victimes avec une écharpe Burberry rouge? Pourquoi se serait-il donné tant de peine pour faire croire à un tueur en série? Un tueur en série qui n'existait pas. Mais seules 2 personnes partageaient ce secret. Le meurtrier de Myrtille Camus et elle. Lorsqu'oncle Gilbert avait garé sa vieille Mercedes classe E sur le parking de l'école Jean Marion de Grand Cambrésis, Océane avait peiné à masquer son excitation. Parmi les 5 personnes qui se tiendraient avec eux autour de la table, l'une d'elles était-elle l'assassin de Myrtille Camus? Océane laissa tomber le cadavre de Jamal. Le dos en feu, elle n'avait pas fait 30 mètres et se sentait épuisée. Jamais elle ne parviendrait à le porter jusqu'au puits. Elle prit le temps de réfléchir. Le tirer était la bonne solution. Le tirer, puis tout nettoyer derrière elle. Elle souffla. Son esprit, malgré elle, s'envolait à nouveau vers Grand Cambrésis, ce soir de la découverte du corps de Myrtille. Cette réunion avec la famille Camus dans la salle de la cantine. Ce soir-là, elle avait commis une erreur. La seule au cours de ses 10 ans. Une erreur qui avait failli lui coûter cher alors. Dès qu'elle était entrée dans la salle de la cantine de l'école et qu'elle avait dévisagé les 5 personnes assises derrière la petite table octogonale, Océane avait soupçonné Frédéric Saint-Michel d'avoir tué sa fiancée. Aucun des autres proches, parents ou amis n'avait le profil d'un coupable crédible. Elle l'avait observé toute la soirée, guettant ses moindres gestes, chacun de ses tremblements, la moindre de ses réactions à chaque indice fourni par la lecture des rapports de police. Une heure plus tard, sa conviction était établie. C'était lui. Mais elle avait oublié un détail capital. Le meurtrier de Myrtille Camus possédait exactement le même avantage. Il savait lui aussi que le tueur en série n'était qu'une chimère imaginée par les flics. Il se doutait tout autant que l'assassin de Morgane pouvait être assis à la même table, en face de lui, à les pieds. Quand leurs regards enfin s'étaient croisés, sans même se dire un mot, ils avaient compris. Océane s'était trahie en l'observant avec trop d'insistance. Qui aurait pu le soupçonner? Qui aurait pu douter de la thèse du tueur en série, sinon quelqu'un qui savait que Morgane n'avait pas été tué par un rôdeur frappant au hasard? Qui, sinon son assassin? Ils étaient liés par un pacte silencieux. Tout en évaluant le meilleur moyen d'empoigner le cadavre de Jamal, Océane repensa à ce fameux théorème que Pyrrhos avait exhumé, le dilemme du prisonnier. Deux complices qui peuvent ou non se trahir. S'ils se dénoncent mutuellement, ils perdent tout. S'ils se taisent et coopèrent, ils gagnent ensemble. Jusqu'à ce que l'un des deux soit certain de pouvoir trahir sans que l'autre ait le temps de répliquer. Le gain maximal, selon le théorème. Pyrrhos était le moins stupide de tous les flics. Il avait fini par deviner. Mais sa voix portait un peu trop fort lorsqu'il avait trop bu à travers les cloisons des cabines du Paramé. Ce soir du meurtre de Myrtille Camus, dans la salle de la cantine, la réunion de l'association Fil Rouge s'était achevée vers minuit. Chacun avait regagné sa voiture, puis son hôtel, les yeux rougis. Juste avant de sortir, Océane s'était rendue aux toilettes au fond du couloir de l'école adjacente à la salle de la cantine. Frédéric Saint-Michel l'y avait rejointe, livide. « C'était un accident », avait-il bredouillé d'une voix sourde. « Un accident ! Je ne voulais pas l'étrangler. Nous devions nous marier. Elle m'aimait. Elle ne m'aurait jamais quitté. C'était un coup de tête. Ce type ne comptait pas pour elle. Myrtille m'aimait. Nous avions fait l'amour une dernière fois juste avant que... Avec une capote, j'espère ? » Saint-Michel l'avait dévisagé. Il ne valait pas mieux que les autres hommes. Dès cet instant, Océane pensait déjà à l'éliminer comme les autres. Elle le ferait dès qu'elle le pourrait, dès qu'il n'y aurait plus de risque. « Oui, » avait-il admis. « J'ai un cadeau pour vous. » Océane avait sorti le flacon de verre de sa poche. Saint-Michel, bien entendu, n'avait rien compris. « Celui qui a violé ma sœur me l'a confié, » avait précisé Océane. « Mais il faudra être un peu plus bavard. » Les mains de Saint-Michel s'étaient refermées sur le flacon, alors qu'il murmurait des aveux qui tenaient davantage de la confession. Paniqué après l'assassinat de sa fiancée, il avait dissimulé le corps de Myrtille sous les fougères, dans les grandes carrières, espérant que personne ne le découvre avant qu'il revienne. Puis, certain qu'on le soupçonnerait dès que le cadavre de sa fiancée serait identifié, il avait eu l'idée de suivre le même protocole que celui du crime d'Yport dont les médias avaient parlé les derniers mois. Saint-Michel avait roulé jusqu'à Deauville, où il était entré à la boutique Burberry du printemps, avait acheté une chemise à 150 euros pour endormir la méfiance des vendeuses pendant qu'il glissait sous son manteau une écharpe rouge en cachemire. Sur une plage déserte au retour à Hanel, il avait puisé de l'eau de mer dans un jerrycan pour en asperger le cadavre de Myrtille. Enfin, de retour aux grandes carrières, il avait volé son sac à main et sa petite culotte, reproduisant à l'identique les gestes de l'assassin de Morgane Avril. Un seul détail manquait. Le bloc-notes Moleskine dans lequel Myrtille consignait ses pensées intimes. Aucune trace. Ni sur elle, ni dans son sac à main. La voix forte de maman avait retenti à l'autre bout du couloir. « On y va, Océane ? J'arrive, maman !» Océane avait abandonné à Saint-Michel le flacon de verre. Coopération, réciprocité. Cette simple offrande les innocentait mutuellement. Dès le lendemain matin, la police retrouvait la petite culotte de Myrtille Camus accrochée dans les ronces à quelques centaines de mètres des grandes carrières, maculée du sperme du violeur, identique à celui recueilli dans le vagin de Morgane Avril. La preuve ultime qu'il n'y avait qu'un seul tueur. Un tueur en série qui choisissait ses victimes au hasard. Océane souffla encore. Elle avait tiré le corps de Jamal sur une centaine de mètres. Plus qu'une vingtaine et tout serait terminé. Seules quelques étoiles et un quart de lune éclairaient les champs à l'infini. La brume s'était intensifiée. Elle brouillerait encore les pistes. Au petit matin, il ne resterait aucune trace. Océane releva la capuche de son manteau, frotta ses deux mains gantées, puis se remit à l'ouvrage. La chance d'Océane sonna le 6 octobre 2004, en fin d'après-midi, au fond de sa poche sur son téléphone portable. Elle était alors secrétaire de l'association Fil Rouge et maman passait régulièrement des annonces pour inviter des témoins potentiels à se présenter. Ceux qui n'auraient pas osé parler aux flics. Olivier Roy avait une voix timide.
« Je suis celui que tout le monde recherche »,
avait-il pleurniché au téléphone.
« Le garçon à la casquette Adidas, celui qui tournait autour de Myrtille. Celui que la police... »
Océane lui avait ordonné de se taire, de ne surtout parler à personne. Elle avait voulu lui donner rendez-vous au Formule 1 d'Yvetot le soir même, mais il avait refusé. Trop loin, trop tard, trop dangereux. Elle était parvenue à négocier une rencontre en fin de matinée au cœur du Marais des Vesses, à quelques kilomètres de chez lui, au sud d'Isigny, dans le gabion abandonné de l'ancien guet de 40 ans.
« Je ne l'ai pas tué, madame »,
avait-il continué de gémir au téléphone.
« Tout le monde le croit, mais je ne l'ai pas tué, je l'aimais. Elle devait quitter son mec, elle m'écrivait des poèmes. Elle l'écrivait dans son journal.
« Vous l'avez, ce journal ?»«
Oui, mais... »«
Apportez-le !» Olivier Roy, comme tout le monde, pensait que Myrtille Camus avait été victime d'un rôdeur. Il n'avait aucune raison de soupçonner son rival. Il avait longuement hésité à se livrer à la police. Il avait passé ses journées entre sa chambre et quelques longues promenades dans des lieux déserts, à réfléchir, à penser à Myrtille. Il n'avait rien à se reprocher après tout. Il pourrait facilement prouver son innocence. Mais avec les flics... Il souhaitait tellement coffrer un coupable. Ils avaient affiché un portrait robot qui lui ressemblait vaguement partout dans le canton. Il lui collerait les menottes au poignet avant qu'il ait eu le temps de s'expliquer. Alors il avait eu l'idée de contacter d'abord les membres de cette association, Fil Rouge. Il devait être en cheville avec des avocats, connaître certains éléments de l'enquête que la police ne révélait pas. Il l'écouterait, le conseillerait, lui expliquerait comment s'y prendre avec les keufs. Dans le gabion, Olivier avait remis à Océane tous les souvenirs qu'il possédait de Myrtille. Son bloc-notes Moleskine, ses lettres, ses poèmes. Soulagé. Pas tant qu'Océane. Si Olivier Roy avait parlé, les soupçons se seraient reportés sur Frédéric Saint-Michel. Si Frédéric Saint-Michel tombait, elle tombait avec lui. Il n'y aura jamais aucun garçon entre nous. Océane avait ouvert son sac. Il était midi et le soleil pointait au zénith sur le marais. Des dizaines de canards et de bécasseux nichaient en face d'eux, sur une tourbière couleur rouille déchiquetée par les marées. Olivier Roy semblait trouver cela joli. Il avait l'air romantique, dépressif, complètement paumé. Lorsqu'Océane avait sorti une bouteille de coca, des parts de pizza froide et des pâtisseries orientales, il avait accepté machinalement de grignoter avec elle. Il avait dû trouver le tout étrangement épicé. Pas longtemps. Son regard avait commencé doucement à ralentir, ses muscles à se figer. Puis, comme un chien de chasse aux aguets à l'appel du sifflet de son maître, il s'était immobilisé. Son cœur s'était arrêté de battre dans les minutes qui avaient suivi. Le lendemain, Saint-Michel avait reçu dans sa boîte aux lettres un poème rédigé par sa défunte fiancée. Océane jouait le jeu. Coopération, réciprocité. Saint-Michel était malin. Il s'en était servi face au commandant Bastinet. Pure prévention. La petite Alina, à force de repenser aux derniers jours de sa meilleure amie, se posait de plus en plus de questions. 20 mètres encore. Océane avançait avec précaution, prenant soin d'écarter les ronces sans s'y accrocher. Les flics étaient aveugles, mais maniaques. Un simple échantillon de tissu accroché au bout d'une épine pouvait permettre d'identifier celui ou celle venu ici vider ses poubelles. Avec la disparition d'Olivier Roy, l'enquête s'était dégonflée comme une baudruche crevée. Malgré la fureur de maman, les flics laissaient tomber l'affaire. Ils avaient confié à la gendarmerie de Fécamp, et en particulier au capitaine Pirose, l'entretien de la flamme. Retour à la case départ. Maman s'accrochait à cette hypothèse du double inconnu. trouver un type présent à la fois à Ypres et Isigny. Océane ne s'y opposait pas. Après tout, cela empêchait maman de devenir complètement folle. Cela avait duré des années. Océane avait fini par se rapprocher d'Alina Masson, la meilleure amie de Myrtille Camus, et petit à petit avait semé le doute chez elle. Juste assez pour la préparer au jour où il faudrait se débarrasser de Saint-Michel. Un virus, un cheval de Troie dans le disque dur de son cerveau. Une question insidieuse. Et si Myrtille n'avait pas été tuée par un rôdeur? Et si Myrtille connaissait son assassin? Et un beau jour, en mars 2013, un nom était enfin sorti de la grande tombola. Jamal Salaoui. Un pauvre type, présent au mauvais endroit au mauvais moment. Mais cela, seul Saint-Michel et elle le savaient. Lorsque Carmen avait conçu son plan fou, cette mise en scène invraisemblable pour démasquer Salaoui, Océane avait accepté. Tout était en place. C'était l'occasion tant attendue d'en finir avec Saint-Michel. Elle avait imaginé un final magistral à Saint-Marcouf, l'avait suggéré à maman. La veille de lancer le grand bluff, elle avait réglé deux ou trois petits détails. Desceller une brique du mur de la citadelle de l'île du Large et y dissimuler le bloc-notes Moleskine de Myrtille Camus. Graver trois lettres sur cette brique, M2O. Continuer de rédiger avec Alina le contenu des enveloppes marron pour que Jamal Salaoui doute lui aussi, qu'il comprenne au moment où il le faudrait. Puis passer chez Frédéric Saint-Michel, utiliser un double de ses clés dérobées lors d'une des interminables réunions fil rouge, cacher dans son appartement le sac à main de Morgane qu'elle avait toujours conservé, placer au fond d'un tiroir de la salle de bain un flacon de verre avec quelques vieilles traces du sperme oublié d'Alexandre Dacosta. Saint-Michel n'était tout de même pas assez con pour conserver une telle preuve chez lui. Le lendemain, au petit matin, elle s'élançait de la falaise, sous le nez de Jamal Salaoui, pour un saut de 120 mètres uniquement ralenti par un parachute de poche. L'engrenage était lancé. Nul, pas même Pyrose, ne pouvait l'arrêter. Jamal Salaoui s'était battu contre une machine qui l'aurait broyé tôt ou tard. Cet économiste, Axel Rode, s'était trompé avec sa pseudo-méthode pour résoudre le dilemme du prisonnier. Coopération, réciprocité, pardon. Cela ne tenait que si les complices se retrouvaient ensuite, à la sortie de la prison, souhaitaient à nouveau collaborer, ou se venger. La bonne méthode était de ne trahir qu'une fois, de façon définitive, rendre coup pour coup, tirer le premier. Coopération, trahison, sanction. Océane traîna encore le cadavre de Jamal au plus près du trou. D'après ses estimations, il était profond d'une trentaine de mètres, peut-être davantage en tenant compte des galeries adjacentes qui serpentaient sous le calcaire. Sans doute quelques paysans du coin connaissaient-ils le site et venaient également ici jeter quelques objets encombrants, mais aucun n'aurait eu idée d'y descendre. Au mieux, un spéléologue retrouverait les trois squelettes dans 50 ans, au milieu de carcasses de chiens, de vieux téléviseurs ou de machines à la verrouiller. Ou dans 100 ans, lorsque la falaise aurait suffisamment reculé. Et même alors, et même si on découvrait ces corps demain, quel lien pourrait-on établir entre ces trois cadavres et Océane? Même si on parvenait à identifier ces trois morts, à reconstituer la date de leur décès et la manière dont ils avaient été assassinés, des policiers scientifiques devaient être capables de cela, rien, strictement rien, ne les reliait à elle, ne permettait de l'accuser. Elle ne s'accordait aucun mérite, à part celui de la prudence. Tout s'était tombé dans sa toile d'araignée, sans même qu'elle ait à les y attirer. Elle répéta une dernière fois, comme une prière. « Il n'y aura jamais aucun garçon entre nous. » C'était maintenant une certitude. Tous les hommes avaient payé. Tous les hommes qui s'étaient approchés d'elle deux, étaient morts. Elle dénoua les cordelettes, déroula la couverture. Le cadavre de Jamal roula doucement sur le tissu pourpre, comme sur un tapis qu'on aurait déroulé devant lui pour une ultime cérémonie. Son corps glissa sans un bruit dans le trou sans fond. C'était terminé. Océane avait hâte de retourner à Neuchâtel-en-Bray, mais elle devait faire attention, vérifier qu'elle n'avait laissé aucun indice de son passage à la faible lueur de la torche qui éclairait à peine le bout de ses pieds. Hâte de rentrer chez elle. Hâte de revoir maman. Océane regarda dans le halo pâle la silhouette rabougrie et nue des châtaigniers battus par le vent du large. Hâte que le pommier dans la cour du gîte du Dodane fleurisse à nouveau.